Alors, quels sont les outils qu'il a à disposition? Il en a parlé, il a les preuves historiques. Alors, il y a son autobiographie, et peut-être que vous le savez, dans les années 1978-70, il y a eu la publication de lettres. On ne sait pas si elles sont inventées ou pas. Sans doute qu'elles le sont, mais de manière romanesque, donc on n'est pas dans le réel, là. De manière inventée, c'est très beau. Ce sont des lettres qui seraient des échanges entre Calamity Jane et sa fille. Et du coup, cet échange de lettres est assez passionnant aussi pour la redécouverte du personnage. Donc, il y a des outils, des biographies et de l'autobiographie, mais évidemment, c'est le 3D. Donc, je voulais vous montrer à la fois le dessin pour dire l'accessibilité de l'animation, qui est un imaginaire qui commence par le dessin, mais qui utilise aujourd'hui des outils graphiques. C'est évidemment un travail collaboratif. Vous voyez qu'il faut énormément de dessinateurs, d'animateurs, de gens qui s'occupent du décor, des couleurs, on y reviendra. Mais se dire que la tablette, ça permet de passer du dessin qu'on a vu tout à l'heure au volume. Vous voyez les chevaux et la caravane. Donc des étapes distinctes pour un art particulier. Alors, je vous disais qu'il avait fait deux films et que les plus anciens dans le dispositif se rappellent Tout en haut du monde. On était face à l'Alaska, c'était une petite fille russe qui allait découvrir Tout en haut du monde, c'était en fait le pôle Nord. Et là, on a la même chose dans Calamity. On a tout de suite un décor où elle est in media res, en action. Donc, ça va parler d'une petite fille, mais d'une petite fille, évidemment, en action de son enfance. Alors, il y a quelque chose dans le style de Chaillet particulier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de l'exploration avec les frontières, la cartographie vue de l'Europe, bien sûr, et la jeune héroïne. Mais il y a aussi un style que je voudrais, sur lequel je veux insister et qui permet de sensibiliser notre jeune public à l'idée qu'un réalisateur, une réalisatrice, il va faire plusieurs fois le film avec des mêmes idées qu'il va prolonger. Donc, c'est l'idée qu'il y a peu de dialogue. Donc c'est un film, tout à l'heure on avait des cartons, là c'est un film très silencieux, parce que ce qui l'intéresse, c'est la psychologie du personnage ne va pas passer par les dialogues. C'est-à-dire que le personnage ne va pas exactement dire ce qu'il pense, mais dès que Calamity va recevoir une action, elle va réagir par une autre. Donc je vais vous montrer tout de suite avec un extrait, comment Calamity, quand elle est face à un obstacle, elle réagit par une autre action. Voilà, ça c'est un des plans subjectifs les plus durs du film. Il y en a plusieurs qui montrent justement la pression de l'injustice. C'est que là, on a des corps qui se referment sur elle. On est au plus près du lynchage. Et vous avez fait bien attention que dans la subtilité de la mise en scène et des choix de dessin de Rémi Chaillet, juste avant, on a de plus en plus les visages, mais on a aussi le feu qui s'approche. Donc, on a vraiment l'idée du lynchage qui va arriver. Là aussi, on est en contre-plongée, ça veut dire qu'on est légèrement en dessous d'eux, mais ce n'est pas pour les faire grands, c'est vraiment pour qu'ils fassent peur. Et du coup, on est au plus près de cette violence où les gens vont se refermer sur elle. Hop là. Donc on passe de l'action au plan subjectif très violent de ce qu'elle va subir. Et c'est un des grands enjeux du film sur lequel je reviendrai, l'enjeu du récit, du scénario de Calamity, c'est sa place dans le convoi. C'est-à-dire à la fois sa place dans le convoi, dans ce qu'on lui laisse faire, dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle a le droit ou pas pour les jeunes femmes de l'époque de faire, mais c'est aussi, rappelez-vous, le retour et le fait qu'elle va prendre la tête du convoi. Donc c'est vraiment la place dans la société. Qu'est-ce qu'on la laisse faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et à la fin, le happy end, c'est le fait qu'elle soit devant et qu'elle va retrouver sa place dans le convoi après avoir été humiliée et totalement lynchée. Donc là, on est dans la suite du moment. On est dans un autre type de plan subjectif où ce n'est pas un plan subjectif visuel, ce n'est pas ce qu'elle voit, c'est-à-dire le fait qu'elle manque d'être lynchée, c'est ce qu'elle entend. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi par rapport au personnage d'Abraham, qui est un autre personnage à la fois de l'histoire avec un grand H et de la mythologie des États-Unis du 19e siècle, c'est que Abraham, c'est pas pour rien avec ce nom religieux, c'est que c'est le pionnier au sens religieux aussi, et vous avez vu que c'est lui qui ne veut pas abandonner et qui résiste pendant très longtemps à l'abandon des Canaries, c'est de la famille Canaries, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait qu'un convoi, c'est une collectivité, et comment on accepte aussi les plus faibles, puisque la mère est morte, ce qui est une réalité historique, quand le père fait place au convoi. Mais donc, il y a une disparité familiale par rapport aux autres. Au-delà de ça, le père est dit qu'il est c'est quelqu'un qui fait de la vente, mais du coup qui ne sait pas non plus bien mener sa caravane. Et ça pose évidemment la question de la place sociale par rapport aux familles qui sont moins avantagées que d'autres. Voilà, et là c'est un très beau plan subjectif. Donc un des plans, un des derniers dessins, un des derniers plans du film, on voit l'horizon ouverte et c'est aussi sa prise sur le monde, je vous disais, de l'enjeu de l'héroïne qui est de trouver sa place dans le convoi. On est aussi dans l'héroïsme de son point de vue, de ce contre quoi elle doit lutter, certes, mais qui va plus insister sur sa place à elle par les effets de cinéma. Ce que je vous dis là, c'est qu'il y a plus de plans subjectifs dans le film de Rémi Chaillet que dans le film de Buster Keaton, parce qu'on est moins à sa place. On est dans des plans plus larges chez Buster Keaton pour voir l'action qu'il est en train de faire. Alors, action-réaction, bah, c'est là que j'ai commencé. Donc, vous les avez vus. Je n'ai pas besoin de vous les remettre. L'endurance et l'héroïsme. Donc, on est loin de la petite princesse Disney, mais bon, on est en 2020, donc on pouvait s'en douter aussi. Ce qui m'intéresse aussi maintenant à l'intérieur du personnage, c'est la variété. Tout à l'heure, on était dans des costumes gris et bleu, pouvoir la question déshumanisante de la guerre où il faut que les êtres humains aient un uniforme pour qu'on arrive à les distinguer. Et là, il y a un jeu avec les costumes qui est tout à fait différent puisque ce n'est pas la déshumanisation, c'est la question du rapport à la différence des sexes. Qu'est-ce qui fait qu'avec tel uniforme ou pas, ou tel, comment dire, tel habit, on va la mettre dans la catégorie femme et homme. Et plusieurs fois dans le film, on joue avec cette idée. Vous avez vu là, c'est quand elle joue à dire comment elle doit se présenter. Donc elle montre qu'elle est tout à fait capable de jouer avec les codes féminins. C'est juste que pour faire du cheval, c'est pas pratique, ou pour aller chercher de l'or. Quand elle découvre les uniformes, elle comprend en fait que lui aussi sait jouer dans le rapport des autres. Donc c'est pas qu'une question de différence de sexe, c'est aussi un rapport de classe, comme le dit très bien le personnage qu'elle rencontre. C'est-à-dire que le fait de porter un uniforme, c'est dans le regard des autres, et qu'est-ce que ça ouvre comme possible au personnage, en termes hiérarchiques, de pouvoir ou pas, selon la classe sociale, comme en termes de différence des sexes. Par ailleurs, Calamity Jane dans le film est une énorme conteuse quand on pense à sa place dans le convoi. Je vous ai insisté sur le plan subjectif où elle est devant le convoi, elle a retrouvé sa place. C'est la place d'une leaderuse en fait, de celle qui veut montrer la voie, prendre vie sur le monde, mais c'est aussi une grande conteuse, ce qu'elle était réellement. Hein. C'est-à-dire que pour ça que, même si elle ne savait pas lire et écrire, hein, je ne l'ai pas reprécisé, excusez-moi, mais quand on dit qu'elle a fait écrire ses mémoires, ce n'est pas pour rechercher une plume littéraire. Elle avait un vocabulaire très fleuri. Dans le film, vous vous rappelez, grosse bouse, enfin, elle dit des mots bien choisis et surtout des, entre guillemets, gros mots bien écrits par les deux scénaristes du film, Sandra Tosello et Rémi Chaillet, qui travaillent ensemble depuis la deuxième fois. Mais par ailleurs, elle a été reconnue dans l'histoire comme une très grande conteuse. Donc en fait, comme elle ne savait pas lire et écrire, elle a fait écrire ses mémoires, mais en fait, elle avait un savoir-faire verbal. C'était une très grande oratrice, ouais, cherchez-moi. C'était une très grande oratrice. Et dans le film, il y a vraiment cette idée aussi qu'elle raconte des histoires et que finalement, dans la prise sur le monde, l'imaginaire, c'est un enjeu aussi particulier. Et là, elle captive tout le convoi. C'est pour ça, évidemment, qu'il fallait finir sur cette image. Le convoi a trouvé sa place et elle peut raconter ses histoires.